Voilà, alors donc l'ensemble des qualités des éléments du projet, notamment par l'aspect de la 3D, de son interactivité, de son réalisme, rendent les objets quasiment palpables et offrent aussi une autre façon de déplacer les objets, un nouveau rapport à la spatialisation, vu qu'on a plus de possibilités. Alors ça a quelques vertus. L'une d'elles, ça permet de lever des ambiguïtés par l'intermédiaire de la lumière. Des ombrages et puis des positions que l'on peut avoir autour des objets qui permet de simplement quand deux objets sont très très proches de pouvoir les distinguer beaucoup plus facilement en changeant l'un de ces éléments-là. D'autre part, cela permet d'agencer différemment les fenêtres les unes par rapport aux autres, avec un vrai avantage de pouvoir gagner physiquement de la place sur l'écran en mettant des choses sur le biais. Et ces éléments sur le biais seront peut-être moins faciles à lire, on en verra la généralité, mais par contre ça gagne de la place par rapport au reste. Ça c'est à propos parler des opportunités ergonomiques. Et d'autre part, les changements de point de vue permettront de voir les objets sous toutes les coutures, comme on l'a vu pour l'exemple du e-commerce, hein, sur lequel on pouvait voir la chaussure ou auquel on pouvait voir une voiture sous différents aspects, choses à laquelle on peut s'attendre. On peut s'attendre aussi à une réaction particulière par rapport à la lumière, ce qui est indicateur des matériaux dans lesquels fonctionnent ces différents objets pour le e-commerce. Hein. Mais aussi, on pourrait très bien imaginer une représentation plus ludique, par exemple des vacances, sur lequel on aurait un cube, sur lequel on aurait marqué, voilà, ça c'est mes dernières vacances au Baléares, au hasard. Et puis, on tourne l'objet sous une certaine façon, on pourrait faire un diaporama de plusieurs images de cet endroit-là, encore sous une autre façon, on pourrait avoir les musiques qu'on a écoutées pendant ces objets-là. En fait, on a vraiment une relation d'objet, et sur lequel le changement de point de vue a un vrai intérêt ergonomique. Alors, un des résultats étonnants, c'est que le coût de production est en fait celui d'un site web traditionnel, ce qui est un coût assez marginal par rapport à ce qui peut exister habituellement dans le développement. Et puis, comme on reste sur des développeurs traditionnels et des process de production identiques, on arrive à des coûts tout à fait maîtrisés à l'heure actuelle. Le pendant de cette spécialité en 3D et un investissement intellectuel en fait sur en fait des concepts. Alors ces concepts ils sont faits pour être extrêmement compréhensibles pour les développeurs web traditionnels parce que c'est en fait les mêmes logiques exactement. Ça nécessite en fait des exemples concrets et on en aura et des tutoriels en fait pour expliquer tout ça, mais ce qui est de toute façon beaucoup plus rapide que d'expliquer les mathématiques sous-jacentes. D'autre part, il peut avoir une méfiance pour télécharger un nouveau plugin et l'installer, tout simplement parce que ça pourrait éventuellement être un malware. Et donc, c'est la notoriété du produit qui fait qu'on se méfie ou pas. De toute façon, c'est un faux problème avec Mojo, dans le sens où on a notre vraie opportunité qui est WebGL, et qui en l'occurrence permettrait, en tout cas pendant un certain temps, de ne pas avoir besoin d'installer le plugin pour profiter déjà du même contenu. Puis, il nous faut absolument des exemples concrets pour prouver notre concept. Et c'est exactement la stratégie sur laquelle nous sommes orientés avec Bujo, qui permettra à tout un chacun de voir l'intérêt. Et puis, d'autre part, il y a un aspect tout simplement conditionnel, là, je veux dire, sur le fait que la 3D sert aux jeux vidéo, sert à des choses très esthétiques, et donc il y a une réputation de gadget qui est associée. On pense ici avoir tout à fait les éléments pour prouver que le gadget, en tout cas si gadget il y a, Mojo n'utilise pas cette partie-là dans la 3D.